Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Archery. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié initialement en 2012, Beauté Fatale est un essai féministe de la journaliste Mona Chollet consacré aux normes esthétiques imposées aux femmes. Le livre étudie la manière dont mode, publicité, presse féminine, télévision et industrie cosmétique présentent une féminité étroite comme un choix personnel, alors qu'elle résulte aussi de pressions économiques et sociales. Chollet ne condamne pas abstraitement le soin de soi ou le goût des vêtements. Elle examine plutôt un système où le corps féminin doit sans cesse être corrigé, aminci, rajeuni et rendu désirable. Son enquête combine analyse culturelle, témoignages, travaux sociologiques et observations des médias populaires. Elle relie ainsi les injonctions relatives à la minceur, à la jeunesse, à la sexualisation et à la chirurgie à des rapports de pouvoir plus larges. Le propos central est que la beauté normée produit une autodévalorisation durable et limite les possibilités de vivre hors du regard séducteur. Cet ouvrage propose donc une critique politique de la culture visuelle contemporaine et de ses effets concrets sur la condition féminine. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le complexe mode beauté comme dispositif de normalisation, le cœur de l'analyse repose sur la notion de complexe mode beauté. Mona Chollet désigne par là un ensemble de secteurs, de médias et de discours qui tirent profit de la fabrication continue de défauts féminins à corriger. La beauté n'est pas abordée comme une qualité individuelle stable, mais comme une tâche sans fin. Il faut surveiller son poids, sa peau, ses cheveux, sa tenue, son âge apparent et son pouvoir de séduction. Cette dynamique crée un marché fondé sur l'insatisfaction, puisque la norme reste mouvante et largement inaccessible. Le livre insiste sur le caractère séduisant de cette contrainte. Les produits et conseils promettent autonomie, confiance ou plaisir, tout en reconduisant une définition très codifiée de la féminité. Cette ambivalence explique que la pression ne prenne pas toujours la forme d'un ordre explicite. Elle peut se présenter comme un choix libre, alors que le refus expose souvent à des jugements sociaux. Chollet replace ainsi les pratiques esthétiques dans une économie de l'attention et de la consommation. Son analyse évite de réduire le problème à la vanité individuelle, les sentiments de honte ou d'insuffisance sont produits et entretenus par des représentations répétées, ainsi que par des intérêts commerciaux qui transforment le corps en chantier permanent. Deuxièmement, des normes précoces qui sexualisent et disciplinent les corps, le livre montre que les injonctions esthétiques ne commencent pas à l'âge adulte. Des objets. Vêtements et images destinées aux fillettes introduisent très tôt une distinction entre un corps qui doit être joli et un corps qui peut simplement agir, jouer ou grandir. L'évocation de soutien-gorge rembourré pour enfants illustre cette précocité, elle ne renvoie pas seulement à un produit isolé, mais à la tendance à traiter le corps féminin comme objet de regard avant même la maturité. Cette socialisation contribue à faire de l'apparence une préoccupation centrale et parfois à faire percevoir le corps comme dangereux ou insuffisant. Chollet associe cette logique à la valorisation de la minceur et de la jeunesse. Ces critères ont des conséquences matérielles et psychiques, contrôle alimentaire, peur de grossir, anxiété devant le vieillissement et disponibilité constante pour le jugement d'autrui. L'efficacité du système tient aussi à son caractère ordinaire. Les remarques familiales, les rubriques de magazines et les conseils supposément bienveillants rendent la surveillance du corps familière. L'analyse rappelle que ces normes ne pèsent pas de façon identique sur toutes les femmes, mais qu'elles structurent largement les attentes envers la féminité. Elle invite donc à interroger la frontière entre goût personnel et apprentissage social précoce. Troisièmement, presse, publicité et fiction comme atelier de fabrication du regard, Mona Chollet appuie son argumentation sur une lecture attentive de la culture de masse. Presse féminine, publicité, blogs et séries télévisées ne sont pas seulement des divertissements ou des sources de conseils, ils organisent un vocabulaire, des modèles corporels et des scénarios de réussite. Le livre observe notamment la répétition de messages qui présentent la transformation esthétique comme condition du bonheur, du désir ou de la réussite professionnelle. Les contenus médiatiques peuvent alterner entre discours de libération et prescriptions très contraignantes. Par exemple, en célébrant la confiance en soi, tout en proposant des méthodes pour effacer chaque imperfection. Les fictions populaires sont mobilisées comme matériaux révélateurs de représentations collectives, non comme cause unique des comportements. Cette méthode permet de montrer comment le sexisme circule dans des formes apparemment légères et familières. Chollet souligne aussi le rôle ambigu de la presse dédiée aux femmes, elle peut aborder des sujets sociaux importants, tout en reconduisant une économie éditoriale liée aux annonceurs de la mode et des cosmétiques. Cette contradiction limite la portée émancipatrice de certains discours. Le livre donne ainsi des outils de lecture critique, repérer qui parle, quel idéal est vendu, quel manque est créé et quelles pratiques sont présentées comme normales. Quatrièmement, minceur, chirurgie et jeunesse, de la correction corporelle à la haine de soi. une dimension majeure de beauté fatale concerne les formes les plus coûteuses ou risquées de la quête de conformité, l'obligation de minceur. La peur du vieillissement et la banalisation de la chirurgie esthétique apparaissent comme les expressions visibles d'un même impératif, rendre le corps féminin continuellement améliorable. Cholet relie cette exigence à une dynamique d'autodévalorisation, lorsque les images dominantes fixent un idéal très jeune, mince. Blanc et conforme au code de la mode, de nombreuses femmes sont amenées à mesurer leur valeur à l'écart qui les sépare de cet idéal. Le problème ne réside donc pas dans une décision isolée de se maquiller, de suivre un régime ou de modifier son apparence. Il réside dans un environnement où ces décisions sont fortement orientées par la crainte de ne plus être regardée, respectée ou employable. Le livre traite la chirurgie esthétique avec une attention particulière, car elle rend concrète l'idée que le corps peut devenir un projet médical de perfectionnement. Cette perspective permet de comprendre pourquoi des pratiques présentées comme privées ont une portée collective. Elles peuvent renforcer une hiérarchie entre corps acceptable et corps dévalorisé. Cholet met en garde contre une définition de l'estime de soi fondée sur la capacité à satisfaire sans relâche des critères externes. En dernier lieu, la question du corps comme enjeu de citoyenneté et d'égalité, pour Mona Cholet, la critique des normes de beauté ne relève pas d'une préoccupation secondaire. Le rapport au corps conditionne le temps, l'âge, l'énergie et la liberté de mouvement dont disposent les femmes. Une personne sommée de surveiller constamment son apparence peut consacrer moins de ressources à ses projets, à son travail, à ses loisirs ou à sa participation publique. L'auteur relie donc les injonctions esthétiques à la subordination sociale. La féminité normée valorise souvent la disponibilité, la séduction et la discrétion plutôt que la puissance, la compétence ou la pluralité des manières d'exister. Cette analyse éclaire également les liens entre objectification, sexisme ordinaire et violence, sans prétendre que les représentations causent mécaniquement chaque violence. Le livre montre qu'un imaginaire réduisant les femmes à leur apparence rend plus difficile la reconnaissance de leur autonomie complète. La prescription de certains vêtements, notamment la jupe présentée comme signe obligatoire de libération, devient alors un exemple de faux choix, un symbole peut être revendiqué librement. Mais il devient contraignant s'il sert à juger la respectabilité ou la féminité. Cette perspective politique distingue l'essai d'une simple critique de la mode. Il défend la possibilité pour les femmes de choisir leur style sans que leur valeur, leur sécurité ou leur place sociale en dépendent. En conclusion, Beauté Fatale s'adresse aux lectrices et lecteurs qui souhaitent comprendre comment les normes esthétiques participent aux inégalités de genre. Il sera particulièrement utile aux personnes qui s'intéressent au féminisme, à la sociologie du corps, aux médias, à la publicité ou à la culture populaire. Sa lecture offre un bénéfice intellectuel précis, elle permet de déplacer le regard, depuis les choix individuels, vers les structures qui rendent certains choix plus attendus, plus rentables et plus difficiles à refuser. Elle peut aussi aider à analyser avec davantage de distance les conseils de beauté, les récits de transformation corporelle et les images qui associent valeurs féminines et désirabilité. L'ouvrage se distingue dans le champ des essais féministes par son attention concrète aux objets ordinaires, aux magazines, aux séries et aux discours commerciaux. Là où des analyses plus théoriques traitent surtout des principes généraux de la domination, Mona Cholet montre comment celle-ci s'installe dans des gestes, des achats et des représentations quotidiennes. Son écriture engagée et sa forte densité documentaire peuvent parfois paraître polémiques ou datées dans certains exemples, notamment parce que les références médiatiques appartiennent au début des années 2010. Mais cette inscription historique constitue aussi une force, elle permet de constater la persistance de mécanismes que les plateformes numériques et les réseaux sociaux ont depuis reconfiguré. Le livre demeure une référence accessible pour penser la beauté comme enjeu social et politique. Si vous souhaitez soutenir Mona Cholet, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.